La voix animale. Une émission de Karine Félix Faure, réalisée par Radiola.
Nous avons tous grandi avec les animaux, souvent à la maison, mais aussi dans les livres, à l'école, pendant nos balades dans la nature et dans notre imagination. Les animaux occupent une place essentielle dans nos vies, non seulement en tant que compagnons fidèles, mais aussi en tant que piliers de l'équilibre écologique. Comme le disait le naturaliste américain Henry Beston, les animaux sont d'autres peuples, pris avec nous dans le réseau de la vie. Et dans cette émission, nous allons parler des animaux errants, les grands oubliés. Mahatma Gandhi, un avocat indien connu pour sa résistance non violente, disait « On peut juger la grandeur et la valeur morale d'une nation à la façon dont elle traite ses animaux. » En effet, malheureusement, les Français sont les champions de l'abandon d'animaux de compagnie en Europe. Entre 100 000 et 300 000 animaux sont abandonnés par an, dont beaucoup en été, mais de plus en plus tout au long de l'année. Cela ne concerne pas seulement les chiens et les chats. Les lapins, hamsters et autres nouveaux animaux de compagnie, les NAC, en sont victimes aussi. Si je vous raconte l'histoire suivante, c'est que, qui sait, vous allez être confronté à une situation d'animaux errants et vous aurez peut-être plus d'idées sur comment vous y prendre. J'ai longtemps habité à New York, une ville incomparable. Tout s'y passe et en même temps, 24 heures sur 24. On l'aime ou on la déteste, il n'y a pas de juste milieu, je crois. Je travaillais à New York, mais parallèlement, j'étais famille d'accueil pour plusieurs associations qui sauvaient des chats des rues et qui trappaient, ce qui veut dire attraper, des chats pour les faire stériliser afin de diminuer les colonies. Un chat errant à New York n'atteint pas souvent 2 ans. Il y a trop de dangers et de risques. Entre les accidents de voiture, la famine, la maltraitance et l'insalubrité, c'est une misère infinie. Mais la joie de pouvoir aider des êtres sans voix est infinie aussi. Même si mon sommeil était sévèrement compromis avec les nombreux chatons qui bivouaquaient chez moi et pour qui nuit et jour n'existaient pas. Mon plus grand projet allait se jouer autour de Noël 2014. Les bâtiments à New York, souvent, logent une famille qui s'occupe de l'entretien. Cette famille utilise des chats pour éviter une surpopulation de rats. Une étude en 2023 a estimé que New York comptait 3 millions de rats. Avec une population d'un peu plus de 8 millions d'habitants, ça fait plus d'un tiers de la population humaine. Et je confirme qu'ils sont partout. Bref, une de ces familles, pour des raisons inconnues, a déménagé et a laissé derrière elle une colonie d'une vingtaine de chats adultes et de 40 chatons. Car la stérilisation est loin des préoccupations de ces familles, souvent vivant dans la précarité eux-mêmes. Qu'est-ce qu'on fait dans une situation comme ça? Eh bien, d'abord, il me fallait négocier une clé pour rentrer sur les prémices. Le quartier n'était pas des plus sécures. J'étais bien contente de pouvoir fermer la grille à clé derrière moi. J'ai commencé à les nourrir. Ils étaient absolument affamés et se jetaient sur la nourriture. À savoir que la nourriture est votre amie dans le processus de la sociabilisation. Puis, j'ai pris des photos de chacun des chats pour pouvoir les différencier. Il fallait voir quel chat était sociable et donc adoptable, quel chat malade, quelle chatte gestante, les plus urgentes à attraper, etc. Mon Noël se déroulait dans une ruelle mal éclairée avec une horde de chats en pitoyable état. mais au moins, ils avaient à manger et boire. Ça me rendait heureuse.
I am not okay. I'm barely getting by. I'm losing track of days, losing sleep at night. I am not okay. I'm hanging on the rails. So if I say I'm fine, just know I learned to hide it well. Not okay, but it's all gonna be alright. It's not okay, but we're all gonna be alright.
Il faisait très froid, moins 15 degrés. J'avais obtenu des cage-trappes par des associations et j'ai commencé à trapper. Bien qu'on aimerait trapper les femelles gestantes et les chats malades d'abord, avec une colonie, c'est impossible de choisir. C'est celui qui rentre qui est pris. Mais avant de trapper, il faut avoir un plan, ou mieux, un sort de plan, car il y a constamment des imprévus. À New York, c'est assez bien organisé dans le sens que les associations travaillent avec un organisme qui emmène les chats trappés dans un camion à des endroits où ils sont stérilisés. Et les chats sont ramenés le même jour au point de départ. Bien sûr, ça demande un planning et des paperasses, mais au moins, c'est une étape importante qui se réalise. Mais une fois stérilisés, que faire avec les chats? C'est là où ça devient complexe. Déjà, il faut que les chats se remettent de leur opération. Je travaillais avec une association qui avait accès à une cave où je pouvais caser des chats dans leur cage-trappe. Je ne vous dis pas les manœuvres à faire avec des cages-trappes dans une cave pliée en deux avec des chats quelquefois très sauvages, mais au moins, ils étaient à l'abri. Il fallait les nourrir aussi et nettoyer les cages, ce qui se fait en insérant une grille spéciale pour diviser la cage en deux, ainsi pouvant nettoyer une partie, puis l'autre en sécurité. Le dessous des cages était tapissé d'une alaise pour plus de confort pour les chats. J'ai pu emmener gratuitement un groupe de chats à 6 heures de route de New York dans un refuge pour chats atteints de maladies graves, dans ce cas de leucose avancée, une maladie mortelle. Justement, ces chats étaient d'une gentillesse extrême et ça me crevait le cœur de penser qu'ils allaient mourir dans plus ou moins longtemps. Des chats non stérilisés se transmettent souvent des maladies, notamment à cause des batailles autour de femelles en chaleur. Heureusement, l'endroit qui les accueillait était formidable avec tous les soins possibles jusqu'à la fin. C'est fou comme les choses s'arrangeaient pour que tout se déroule au mieux. J'y crois beaucoup. Quand la cause est juste, il y a souvent de petits miracles qui, ensemble, en font un grand. On rencontre les bonnes personnes au bon moment et ça crée une énergie de réussite. Toute cette colonie a trouvé sa place. Ça m'a pris 4 mois en tout, mais c'est une expérience qui m'inspire toujours. Il faut à la fois y croire, bosser et ne pas lâcher.
Do, mi, sol, do, do, sol, mi, do. Le vrai musicien répète avec ardeur de savantes gammes et des arpèges. Mais il faut qu'il sache que sa voix doit sortir du cœur en chantant ses gammes et ses arpèges. Si nous voulons chaque jour les pratiquer, nous verrons nos progrès vite encouragés. Do, mi, sol, mi, do, mi, sol, mi, fa, la, do, la, do. Répétons nos gammes et nos arpèges.
Quand je me suis installée à Durfee avec mes 4 chats des rues new-yorkais, me voilà rebelote confrontée à des chats errants. J'ai fait la connaissance de plusieurs personnes qui s'occupent de leur sort et nous avons fait stériliser nombre d'entre eux. C'est ce qui est le plus important, la stérilisation. C'est la seule manière de faire diminuer les colonies. Les chats se multiplient à grande vitesse. En fait, un couple de chats peut générer 20 000, je dis bien 20 000, congénères en seulement 4 ans. Et ces chats ont bien souvent une vie misérable. À ce jour, vous pouvez chercher une cage trappe à la mairie de Durfee. D'autre part, l'association Instinct Félin, une association qui a pour but de replacer des chats au sein d'une famille, a effectué un travail énorme à Durfee. Les chatons sont placés en famille d'accueil, quelquefois avec la maman si elle n'est pas trop sauvage, et avec l'argent des adoptions des chatons, les mamans sont stérilisées. Le lien vers cette association est en podcast de l'émission sur le site de Radiola. Tout le monde peut aider à son échelle. Tout d'abord en stérilisant votre animal. Et vous pouvez aller plus loin et devenir famille d'accueil pour une association ou refuge près de chez vous. Elles en ont toujours besoin. Vous pouvez faire un don, devenir nourrisseur de chats errants après qu'ils sont stérilisés. Vous pouvez construire des abris. Vous pouvez être bénévole pour une collecte de nourriture. Il y a toutes sortes de possibilités. C'est l'indifférence qui tue. Et les animaux errants n'y sont pour rien et ne méritent pas cela. Si chacun donne un peu de soi, le monde des animaux errants devient un peu plus lumineux.
À quoi ça rêve un chat? Ça rêve d'une mer de croquettes. Ça rêve d'une plage de croquettes. D'un crocodile plein de croquettes. Ça rêve d'une glace à la croquette. À quoi ça rêve un chat? Ça rêve d'une montagne de croquettes. Ça rêve qu'il neige des croquettes. Ça rêve d'un Père Noël plein de croquettes. D'une bataille de boules de croquettes. À quoi ça rêve un chat? Ça rêve de jouer à la roulette. De miser 2 ou 3 croquettes. D'empocher une somme coquette. Une somme coquette de croquette. Ah, ah, ah. À quoi ça rêve un chat? Les chats.
Oh, j'ai envie de jouer du saxo là.
Eh ben vas-y. Qui parlent en dormant.
Ah, mal.
Mais oui. Se trahissent unanimement.
Ça apporte un petit truc.
Bien sûr. Tous les chats rêvent en cachette te rencontrer.
J'ai toujours envie de jouer de la guitare. Tu peux pas? Passe-moi ta guitare.
Tiens, tiens. Davy Croquette.
Croquette, la première fois que je t'ai vu, je t'ai aimé. Et mon amour pour toi, Croquette, est toujours aussi fort. Je sais, tu m'as surpris un jour avec une boîte de thon, mais tu sais, ce n'était qu'une passade.
Mais oui.
Au fond, il n'y a que toi qui compte vraiment, Croquette. Je t'aime, Croquette. Je t'aime quand tu te parfumes au bœuf, au poulet, au lapin.
Et au saumon.
Croquette, tu es la croquette de ma vie. Je ferai un domaine où la croquette sera roi, où la croquette sera loi, où tu seras reine. Laisse-moi t'aimer, laisse-moi t'aimer, croquette.
Ne sois pas si cruelle, croquette.
Ma petite croquette. Croquette. Croquette.
Alors revenons à tous ces animaux errants. Pourquoi on les abandonne? La SPA à Mornac en Nouvelle-Aquitaine nous donne une liste de raisons suivantes. Changement de circonstances personnelles. Il constitue l'une des principales causes d'abandon d'animaux. Des événements tels que la perte d'emploi, le déménagement, les difficultés financières, le divorce, voire même le décès du propriétaire, peuvent conduire à l'incapacité ou à l'impossibilité de continuer à prendre soin d'un animal de compagnie. Manque de responsabilité et d'engagement. Certains propriétaires adoptent un animal de compagnie sans réfléchir aux responsabilités à long terme. Le manque de compréhension des besoins, du temps et des ressources nécessaires pour s'occuper d'un animal peut conduire à des abandons lorsque la réalité de l'engagement devient trop contraignante. Problèmes comportementaux non résolus. Des problèmes de comportement non traités peuvent également être une cause majeure d'abandon. Les propriétaires peuvent se retrouver dépassés par des comportements indésirables tels que l'agressivité, l'anxiété sévère ou des problèmes de propreté et se sentent incapables de faire face à ces défis. Achat impulsif et mode. L'achat impulsif d'animaux de compagnie, souvent basé sur des tendances ou des modes, peut mener à des abandons lorsque l'euphorie initiale de l'acquisition s'estompe et que la réalité de l'engagement à long terme devient apparente. Manque de sensibilisation et d'éducation. Le manque de sensibilisation à l'importance de l'adoption responsable, de la stérilisation et des soins appropriés peut contribuer à l'abandon. Un manque d'éducation sur les besoins spécifiques de chaque espèce ou race peut également conduire à des attentes irréalistes et à des abandons. En résumé, une adoption non réfléchie souvent mène à l'abandon et à la misère. Mais le contraire est vrai aussi. Un animal bien à sa place dans une famille aimante est un animal heureux qui peut vous apporter énormément de joie, d'amour et beaucoup plus encore. À présent, je voudrais faire un zoom sur la stérilisation et pour cela, je suis allée voir le docteur Christophe Hunier, vétérinaire en chef, à la clinique des lavandes de la Bégue de Mazingue. On écoute l'entretien ?
Merci, docteur Hunier, de m'avoir reçu et bien vouloir répondre à mes questions sur la stérilisation des animaux. Donc voici ma première question. Quels sont les principaux avantages et inconvénients de la stérilisation pour les animaux de compagnie?
Alors concernant les inconvénients, ils sont assez simples. C'est que les animaux ne peuvent plus se reproduire par définition. Donc si on envisage de garder une descendance de son animal, eh bien ça ne sera plus possible. Dans les autres inconvénients, rarement on peut observer des troubles de la continence chez certaines chiennes de quelques races particulières, mais c'est un phénomène assez rare et qui se traite sans aucune difficulté. Par contre, les avantages, eux, sont extrêmement nombreux. Pour les chiens, eh bien, ça réduit tous les comportements associés à l'activité hormonale, en particulier l'agressivité qui peut être accentuée en période de cycle d'activité hormonale chez les femelles, mais également chez les mâles. Et puis les comportements de fugue et bien sûr des mésalliances, des saillies non souhaitées avec des chiennes qui se font saillir par des chiens qui se sont échappés de chez eux. Pour les chats, les intérêts sont à peu près les mêmes. Et on rajoute des intérêts également liés à certaines maladies. Alors bien sûr, ça limite la prolifération des chats. Il faut savoir que des chats peuvent se reproduire au moins 2 fois par an. Donc on se retrouve très rapidement avec une population chat de plusieurs centaines d'individus si on ne stérilise pas les parents natifs. Et puis ça permet aussi de réduire des comportements territoriaux, et en particulier le marquage urinaire, hein, les chats qui urinent dans la maison pour marquer leur territoire, les bagarres entre chats, l'exploration de l'environnement plus ou moins éloigné, ce qui fait que ce sont des chats qui s'exposent à des dangers, des accidents de la voie publique, et se faire écraser par un véhicule, rencontrer d'autres animaux qui vont induire des combats. Et puis... on a une particularité chez le chat, c'est que lors des combats entre chats, et en particulier entre chats non stérilisés, on a une transmission possible de maladies virales, et en particulier des maladies virales graves, comme le sida du chat ou la leucose du chat. Donc la stérilisation, pour tous ses avantages, est une nécessité chez les chats qui ne sont pas destinés de race à avoir des petits.
La stérilisation, elle est plus recommandée pour certaines espèces?
Alors culturellement en France, les femelles sont plutôt stérilisées chez les chiennes et les mâles sont pas trop castrés, alors qu'il y a d'autres pays où mâles et femelles sont castrés. Il est conseillé de castrer les mâles pour plein de raisons et entre autres des raisons de plus tard de santé, limiter les problèmes de prostate. Et chez les chats, là, clairement, c'est une espèce qu'il faut stériliser le plus tôt possible afin de limiter les proliférations qu'on observe dans nos villages et dans nos villes dromoises.
Et quel est l'âge idéal pour stériliser un animal et pourquoi ?
Alors idéalement, on stérilise avant l'activité hormonale. Donc avant la puberté, donc aux alentours de l'âge de 5 à 6 mois. On peut éventuellement stériliser encore de manière plus précoce chez le chat, c'est une possibilité, mais en général 5-6 mois c'est satisfaisant. Et il y a quelques situations chez le chien où on va éventuellement attendre un peu plus, mais c'est des situations extrêmement rares, et ça c'est le vétérinaire qui le déterminera avec le propriétaire. Ça va dépendre de certaines races, de gabarits, de poids, etc.
Est-il vrai qu'une femelle doit avoir au moins une portée avant d'être stérilisée ?
Alors non, ce n'est pas vrai et c'est même pas du tout conseillé pour la plupart des animaux, puisque l'objectif c'est de stériliser avant la puberté. L'intérêt majeur de stériliser avant la puberté, c'est qu'on n'a pas de développement en particulier du tissu mammaire chez les femelles, ce qui permet de réduire de peu près 90 à 95% les risques de tumeurs plus tard des mamelles.
Et la pilule contraceptive est-elle une alternative viable et sûre de la stérilisation ? Et quels sont ses avantages et inconvénients ?
Alors la pilule contraceptive n'existe que pour les chattes, n'existe pas pour les chiennes. Et chez la chatte, les pilules qui existent actuellement sont des pilules macro-dosées, donc qui présentent l'inconvénient majeur d'induire une imprégnation hormonale extrêmement forte, durable et qui est le terreau du développement d'infections d'utérus ou de tumeurs de l'utérus ou des mamelles au bout de quelques semaines à quelques mois. Et alors quand on la donne sur plusieurs années, malheureusement, c'est systématique. Le seul avantage, c'est qu'effectivement, ça supprime immédiatement les chaleurs lorsqu'on administre la pilule, mais ça doit être une solution extrêmement temporaire de donner une fois en vue derrière d'une stérilisation pour éviter justement ce risque de tumeur et de cancérisation.
On en vient à ma dernière question. La stérilisation est souvent perçue comme coûteuse. Quels arguments donneriez-vous pour justifier cet investissement auprès des propriétaires des animaux ?
Alors, le premier argument, c'est qu'il est de toute façon bien évidemment moins coûteux de stériliser sur un animal en bonne santé et jeune que devoir gérer toutes les conséquences qu'on rencontre, qu'on a évoquées précédemment, d'animaux non stérilisés, les plaies, les bagarres, les maladies, etc., qui sont bien plus compliquées à gérer et voire même pour certaines induisent des problèmes sur toute la vie de l'animal. Hein, les maladies rétrovirales comme la leucose ou le sida du chat, ça nécessite un traitement à vie. Donc c'est bien évidemment toujours nettement moins coûteux. Et concernant les pilules contraceptives, le calcul montre que après quelques mois, on se retrouve avec un coût supérieur de la pilule contraceptive par rapport à la stérilisation, avec en plus la certitude d'induire un cancer chez son chat.
Merci docteur Hunier.
big furry paws and he liked to howl. Great big furry back and furry hat. I think I'll call it a bear. Man gave names to all the animals. In the beginning, in the beginning. Man gave names to all the animals. In the beginning, long time ago. He saw an animal upon a hill, chewing up so much grass until he was filled. He saw milk coming out, but he didn't know how. I think I'll call it a cow. Man gave names to all the animals. In the beginning, in the beginning.
Pour cette émission, j'ai posé la question « Pourquoi les animaux sont importants dans nos vies ?» à Jonathan Bellcamp, un biologiste spécialisé dans l'étude des comportements animaux. Il est l'auteur de plusieurs livres, dont deux best-sellers, et de nombreux articles scientifiques sur le sujet. Il est régulièrement amené à présenter ses recherches dans des émissions scientifiques de la BBC et de la National Geographic Channel. Il vit au Canada. Voici sa réponse. Les animaux sont importants pour moi à bien des égards. Depuis mes premiers souvenirs d'enfance, je suis fascinée par les animaux et je me préoccupe profondément de leur sort. Ressentir de l'empathie pour une autre créature a toujours été naturel pour moi. Qu'il s'agisse d'un castor, d'un serpent noir ou d'un scarabée, je vois un autre être dont la vie est précieuse pour lui, comme la mienne l'est pour moi. En tant que biologiste, les animaux ont évidemment joué un rôle important dans ma vie professionnelle. Une carrière de 30 ans dans la protection des animaux s'est transformée en une carrière secondaire d'auteur de livres sur la vie intérieure des animaux. Depuis 2006, j'ai écrit et publié 6 livres, dont un pour les enfants. En tant que leader de demain, les enfants sont un public particulièrement important à atteindre avec des messages positifs et bienveillants sur les autres créatures. Cette dernière vocation, en particulier, a été fort gratifiante pour moi. Les animaux ont besoin de notre aide, surtout dans l'ère de l'Anthropocène que nous vivons aujourd'hui, où les humains menacent l'avenir même de cette planète. Récemment, j'ai signé un contrat avec un éditeur pour un livre sur les aspects positifs de la vie, en me concentrant sur la façon dont les animaux sauvages coopèrent, font preuve de vertu et éprouvent de la joie. Je crois que nous avons tendance à dépeindre la nature sauvage comme étant essentiellement dure et cruelle, et je pense que cette perspective doit être corrigée. Il est évident que l'espèce la plus cruelle et la plus destructrice sur Terre est celle que nous voyons dans le miroir tous les jours. Nous devons assumer la responsabilité de nos propres actes. L'homme n'est qu'une espèce parmi d'autres qui interagissent entre elles. Que nous le voulions ou non, nous dépendons d'une planète saine et fonctionnelle pour notre survie à long terme. Une autre façon dont les animaux sont importants dans ma vie est mon choix de ne pas les manger. Comme la plupart d'entre nous, j'ai été élevée comme un omnivore et ce n'est qu'à l'âge de 25 ans que j'ai réalisé que le fait d'être végétarien était une étape essentielle pour réduire la souffrance animale. Je suis devenue végétalien 5 ans plus tard. L'agriculture animale est sans exception l'industrie la plus violente de notre planète. C'est aussi l'une des plus destructrices sur le plan écologique. S'abstenir de soutenir cette industrie est un rappel quotidien que nous pouvons tous faire une différence positive pour ce monde précieux et magnifique. Et voici que cette émission se termine. C'était La Voix Animale. J'espère qu'elle vous a donné plus de clarté sur le sort des animaux errants. Merci Marin Koedic pour la réalisation technique de cette émission. Je vous dis à bientôt pour un autre épisode.